Détour, Madeleine Caboche.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, et je suis drôlement contente aujourd'hui puisque j'ai le plaisir d'accueillir dans des tours Antoine. Bonjour Antoine.
Bonjour Madeleine, bonjour tout le monde.
J'allais faire une
bonne année avant toute chose. Bonne année à tout le monde.
Qu'est-ce que vous leur souhaitez à nos auditeurs?
Je leur souhaite que du bonheur. Je suis venu semer quelques graines d'utopie en Suisse pour quelques jours, alors j'espère que ces graines vont germer, apporteront du rêve, de l'imagination et puis surtout la grande envie de vivre ses rêves.
Ce que vous avez fait et ce que vous continuez à faire. Alors Antoine, si vous êtes là en face de nous à Lausanne dans le studio, c'est parce qu'il y a une série de présentations Connaissance du Monde, l'océan indien qui commence ce soir à Tramelan, du côté de 20h et c'est un portrait de l'océan indien. Comment ça va se dérouler ce soir et les autres soirs en Suisse, Antoine ?
Bien, Connaissance du Monde est une institution très ancienne que j'ai connue depuis 60 ans passés, puisque j'avais 10 ans la première fois que j'ai assisté à une conférence. C'est tout simple, c'est un conférencier qui vient, il a fait le voyage, c'est lui qui connaît le pays, c'est lui qui a réalisé le film, et c'est lui qui le commente. Donc c'est en direct, on est là, on a le public qui s'installe, et moi je suis le pilote de l'avion qui les emmène pendant 2 heures à peu près, visiter, cette fois-ci c'est les îles de l'océan Indien, c'est-à-dire la Réunion, l'île Maurice et les Seychelles. Voilà, c'est 2 heures, on oublie les soucis, on oublie les tracas, puis on a l'impression de partir, et puis parfois ça donne vraiment des envies de voyage, et je rencontre des gens au bout du monde, à Madagascar ou bien en Polynésie, qui me disent « Ah, on a vu un de vos livres, on a vu un de vos films, ou on vous a vu en conférence, et ça nous a donné envie de partir. » Voilà.
Ça vous a souvent aidé, justement, cette notoriété, Antoine, aux quatre coins du monde ?
Aux quatre coins du monde, non, parce que je suis mondialement célèbre en France et en Suisse, pratiquement seulement.
Oui, mais il y a des gens, des voyageurs.
Oui, oui. Non, mais j'ai une notoriété qui est vraiment idéale, moi, parce qu'elle est à un niveau qui reste humain. Je suis pas une star, je suis pas embêté par les médias, poursuivi par les paparazzi. J'ai plein d'amis dans le monde entier, c'est vrai. Il y a un avantage, du coup, j'ai la gentillesse de beaucoup de gens. Mais en même temps, ça me donne une espèce de liberté d'esprit, comme ça, qui me fait que je voyage. Même là où je suis inconnu, je dirais pas dans un petit nuage, mais j'ai le bénéfice de cette gentillesse partout, quoi. Donc j'essaie d'être gentil avec tout le monde et je crois beaucoup au pouvoir de la gentillesse.
Alors, bien sûr, si on donne comme ça quelques clés, on va dire Antoine et les lagons, bleus, si possible, très bleus.
Le plus bleu possible,
oui. Le plus bleu possible.
C'est facile, moi ma vie c'est 50 nuances de bleu.
D'accord, référence que tout le monde comprendra. Du bleu, pas du gris, voilà.
Non, non, pas de gris, non.
Antoine, le jour où vous avez décidé justement de larguer les amarres, il y a eu ce moment juste avant de célébrité extrêmement importante, hein, avec toutes ces chansons qu'on connaît encore. Et puis, à l'âge de 30 ans, c'était en 74, donc il y a 40 ans, vous décidez de larguer les amarres et de partir aux quatre coins du monde sur des bateaux. Vous vous souvenez, qu'est-ce qui fait qu'il y a eu cette envie de partir? Est-ce qu'il y avait une lassitude aussi du monde du showbiz, par exemple?
Il n'y avait pas une lassitude, mais c'était insuffisant pour moi. Il ne me lassait pas, mais il était insuffisant. J'avais envie de voir d'autres choses. J'étais content d'avoir du succès, content d'aller faire des tournées, des galas, des émissions de télévision. Mais ça ne me suffisait pas. Ça ne me suffisait pas parce que je me disais, je ne vais pas faire que ça toute ma vie, quoi. Que ça toute ma vie. Et le mode de voyage, il y avait des voyages avec la chanson, il y avait des voyages qui m'amenaient au Brésil, oui, des tournées ou des émissions de télévision qu'on allait faire ici ou là, mais du coup, on ne voyait que le studio de télévision, votre studio de télé est très, très joli, mais à la fin, je voyais que ça. L'aéroport, l'hôtel, en général, l'hôtel de luxe de la ville, et puis le studio de télé ou de radio, quoi. Alors, ou la salle de spectacle. Alors, ça m'a pas suffi. D'ailleurs, côté anecdote amusante, en Suisse, la première année où je chantais, en 66, je suis venu chanter, je me rappelle plus la salle où c'était, mais il y a eu une émeute. C'est-à-dire que le spectacle a duré 10 minutes. On a dû quitter parce que la sécurité ne maîtrisait plus le public. Alors pourtant, les Suisses sont plutôt calmes.
Mais ça veut dire qu'ils étaient extrêmement enthousiastes.
Oui, ils grimpaient sur scène et tout. C'était l'année des élucubrations et c'était vraiment enthousiaste. Et ça avait, le lendemain, sur le journal de Genève, ou je sais pas, la Tribune, la Tribune, la première page, c'était « Petite émeute pour Antoine
voilà. ». Vous n'aviez pas réussi à les calmer?
Non, à un moment, on pouvait pas, là. C'était un petit peu trop la folie. Donc, ça a été marrant de vivre ça. Mais je me suis appliqué ensuite à ramener toutes les choses à j'ai travaillé sur la gentillesse, j'ai vraiment insisté sur l'important d'avoir des bonnes relations avec tout le monde, d'être l'ami de tout le monde, même si quelques-uns qui m'aimaient dans la violence des élucubrations, du début, pas des élucubrations, mais disons de mon premier succès qui était excessif.
Non, c'était vital.
Oui, même si certains ont été déçus ensuite que je continue pas à être provocateur, etc. et tout, moi j'ai pensé que c'était le plus important d'avoir une belle qualité de vie, et puis de faire voir des belles choses, et puis de raconter. Donc le voyage me suffisait pas dans le cadre de la chanson, du végétariat de la chanson. Donc un jour, je suis parti en bateau. Alors on m'a dit, je raconte dans le livre d'ailleurs, dans ma toute première escale.
40 escales de navigation chez Gallimard. Ouais.
Voilà, ma toute première escale quand j'ai quitté Marseille. C'était pas vraiment une escale, c'était le port de départ, quoi. Et puis là, les marins du port me disaient « Antoine, la mer te fera venir les cheveux blancs ». Et des copains du show business, eux, me disaient « Antoine, si tu pars dans 6 mois, on sait plus qui tu es, quoi ». Et je me suis dit ben je m'en fiche, ben c'est pas d'être connu, l'intérêt c'est de vivre. Et puis en fait, j'ai très vite établi ce régime de revenir à peu près 3 mois par an en Europe pour enregistrer ou surtout pour ensuite publier des livres, des films et tout, faire des émissions de radio et de télé. Et puis ça fait 40 ans que ça dure maintenant.
Vous aviez imaginé ça, que ça durerait aussi longtemps quand vous êtes parti de Marseille?
Non, je pensais que ça durerait 5 ou 6 ans, mais j'étais fermé à rien. Je savais pas que ça serait aussi gratifiant. Je savais pas que ça serait aussi merveilleux de partir voyager. Je m'étais configuré un premier itinéraire de voyage qui était un petit peu hardi.
C'était quoi le premier?
Des conditions météo qui étaient pas les bonnes. Et j'avais l'idée de partir faire un petit peu un tour du monde contre le vent en quelque sorte. Et puis je me suis aperçu très vite de l'immense différence qu'il y a entre se battre contre les éléments et au contraire d'essayer d'utiliser leur force et leur douceur en même temps. Et j'ai choisi ça. Et puis il m'a fallu à peu près un an pour ajuster le tir. Et quand j'ai compris comment pouvait être mon voyage, là, il n'y a plus de problème. Et je vous dis, ça fait 40 ans que ça dure maintenant.
Où est-ce que vous avez appris la voile?
La voile, d'abord, j'ai jamais, quand j'étais petit, mes parents n'avaient pas la voile dans leur vie, quoi. Et puis, c'était en 1969. Un jour, je suis monté par accident sur un petit voilier qui était dans une maison que j'avais prise en location sur la Côte d'Azur. Et ça a été le coup de foudre tout de suite. Non pas dans l'idée d'acheter ou de louer un voilier pour faire des ronds dans l'eau, faire le guéqué devant le yacht club ou devant les copains sur la plage, mais pour aller quelque part, pour partir au loin, quoi. C'est-à-dire que moi, toute première, sitôt que j'ai eu loin un petit voilier, parce que le premier c'était une épave, il n'est pas allé loin, mais sitôt que j'ai loué un petit voilier, aussitôt je suis allé, la première truc, ça a été d'aller au moins tourner une bouée qui était à 10 000 de là, quoi.
Donc vous avez appris tout seul, en fait.
Voilà, j'ai appris avec quelques copains sur des bateaux de location. Et puis quand je suis parti, je connaissais pas grand-chose, quoi. J'avais acheté le guide des Glénans, qui est une institution pour les
d'origine bretonne. Il y a beaucoup de Suisses qui vont apprendre la voile aux Glénans.
Voilà, c'est ça. Donc j'avais pris le guide des Glénans, c'était devenu ma lecture de chevet pendant près d'un an, même plus d'un an. Mais quand je suis parti, quand j'ai quitté Marseille la première fois, j'avais fait quand même une ou deux petites croisières en solitaire pour m'essayer, quoi. Une autre dans la Bretagne Sud. Je raconte également dans le livre, c'est une des 40 escales, la Bretagne Sud. Un copain navigateur qui revenait d'un voyage magnifique, qui s'appelle toujours Gérard Janichon, m'avait dit, si tu sais voyager en Bretagne Sud, naviguer en Bretagne Sud, tu peux faire le tour du monde. Alors j'ai dit, je vais essayer. Ça a été ma première tentative.
On dit souvent ça. Hein. Oui, oui. C'est vraiment vrai, ça. Si on apprend en Bretagne, c'est bon pour
On pourrait peut-être en dire autant du lac de Genève, parce qu'il y a des tempêtes aussi, apparemment. Hein.
Vous n'avez jamais navigué sur le lac de Genève?
J'ai navigué sur le lac de Genève.
Le lac Léman.
J'ai navigué sur le lac. En Suisse, on dit le lac de Genève.
Oh, on dit le lac Léman.
Léman. Et, oui. Alors, et en France, on dit quoi, le lac de Genève?
Je crois bien, oui.
Je sais pas, oui. Bon, alors, sur le Léman, j'ai navigué. Dans les ferries ou dans les bateaux qui font. Quand j'étais enfant, on habitait à Thonon-les-Bains pendant 2 ans. On habitait à Thonon-les-Bains. Alors, on venait des fois à Genève en voiture, mais c'était encore plus drôle d'aller à Lausanne
en bateau.
En bateau, on achetait du chocolat blanc, puis des cigarettes, dont je dirais pas la marque, mais qui mettaient du soleil dans les poumons. Voilà, non, on était jeunes, c'était toujours amusant de venir faire un petit tour en Suisse, et j'ai toujours gardé une place pour la Suisse et Lausanne dans mon cœur, c'est vrai.
Alors, Antoine, dans des tours jusqu'à 16h, avec plusieurs rendez-vous en Suisse, pour Connaissance du Monde, on cite celui de ce soir, mais tous les autres, Neuchâtel, le 8, Morges, ce sera le 9, Fribourg, ce sera le 10, Bulle, le 12, Fontaine-Melon, le 13, Genève, plusieurs séances, 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances à Genève. Et puis après, Annecy, c'est ainsi que vous quitterez notre région.
Voilà, on était déjà passé, on avait présenté, je crois, un film sur la Polynésie à Genève, il y a une dizaine d'années déjà, parce que ça fait près de 10 ans que j'ai pris l'habitude de participer aux conférences de Connaissance du Monde. Et j'ai un très bon souvenir de Genève, de cette période. Et là, c'est moi-même qui ai demandé à faire une tournée à travers la Suisse, à travers cette partie de la Suisse. Parce que
vous aviez envie de manger du papé vaudois.
Du papé de poro. Voilà. Papé de poro, un petit peu de vosuricois, c'est pas juste, c'est pas très loin. Et puis, un petit, des rochetis, voilà. Avec un petit dessis de vin.
De fendant, peut-être,
bon,
en Valais.
De quoi? De cortaillot, de bon villard, de quelque chose comme ça.
Par exemple, voilà.
Avec modération, bien sûr.
C'est Antoine, notre invité jusqu'à 16h. Et ce que je propose, c'est qu'on écoute une chanson de vous, on en parlera après. C'est une chanson d'un disque qui est paru il y a deux ans,
oui.
On écoute et on parle de ce disque parce qu'on l'a attendu, ce disque. Hein. On a attendu qu'il existe, on en parle juste après.
Dans le sable, empreint de mon pied gauche, mon ancestral ébauche, je foule mes premiers pas. Sur la plage, des pirogues colorées me disent tous les secrets de mon envie de l'âge. Il en boit de santa, pourtant je suis pas sentimental. Pays natal, ta nage arrive, je reviens de loin, 43 ans d'exil, un bout de chemin. Ta nage arrive, je reviens de loin, de mon enfance terrible, je ne ressouviens de rien. Sur la place, l'arbre du voyageur, livre ouvert sur mon cœur, me raconte mon histoire. Dans la rue, dans le dédale malgache, une forêt bleue qui cache tout ce qu'un jour j'ai su. Jour de Zuma, visage muscat, pourtant je suis pas sentimental. Pays natal, ta nage arrive, je reviens de loin, 43 ans d'exil, un bout de chemin. Ta nage arrive, je reviens de loin, de mon enfance terrible, et je ne me souviens de rien. Ta nage arrive, je reviens de loin, 43 ans d'exil, un bout de chemin. Ta nage arrive, je reviens de loin, de mon enfance terrible, je ne me souviens de rien. Je ne me souviens de rien.
C'était mignon. Ça fait 2 ans que je n'ai pas écouté cette chanson.
C'est Antoine qui est notre invité jusqu'à 16h. Pays natal, Madagascar. Vous y naissez en 1944. Vous y retournez tard, en fait.
Oui, ben j'en ai parti, j'avais 2 ans. Hein. J'ai très peu de souvenirs.
Aucun souvenir. Oui.
Non, par contre, on avait emmené un peu de Madagascar dans les valises de mes parents. Non seulement sous la forme d'objets d'artisanat, comme des paniers, des choses en bois, etc. Mais surtout avec des mots. Des mots parce que
lesquels?
Toute mon enfance, on a pas parlé malgache, mais utilisé des mots quotidiens. Un panier, c'était une soubique. Le manger, le repas, c'était le sakaf. Et même maintenant, très souvent avec ma compagne Francette, quand c'est l'heure de manger, c'est l'heure du sakaf, quoi. Quand on était malade, on prenait un fanafood, c'était pas un médicament. Le ventre, c'était le kib, le derrière, c'était le voud. Et puis plein de mots comme ça qui sont restés. C'était un de ces endroits qu'on aime. Une fois qu'on y a vécu un petit peu, on en reste amoureux longtemps, quoi. On pourrait en dire autant de la Polynésie. Et puis d'endroits comme la Réunion, par exemple, dans nos conférences, on voit très souvent des gens. Il y a vraiment ça fait partie de ces lieux qui restent dans le cœur des gens quand ils y sont allés une fois ou quand ils ont vécu quelque temps.
J'ai l'impression, Antoine, que donc vous naissez à Madagascar. On l'a compris, vous restez 2 ans. Après, vous partez à Saint-Pierre-et-Miquelon, si je me souviens bien. Puis le Cameroun. Enfin bref, une série de voyages. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit. Vous aviez pas le choix, il fallait voyager.
Ah ouais, moi je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai traversé 4 fois l'Atlantique en paquebot avant d'avoir 10 ans. Ensuite, fait la moitié du tour de l'Afrique. Et c'est vrai qu'on a vécu. J'ai suivi mes parents. Mon père était ingénieur des travaux publics de la France d'outre-mer, c'est-à-dire c'était les colonies françaises à l'époque, quoi. Et donc, par exemple. Tamatave, la chanson, là, mon pays natal. Elle parle de Tananarive, mais moi, ma vraie ville natale, c'est Tamatave. Et à Tamatave, chaque fois que j'y vais, parce que j'y suis retourné peut-être 5 ou 6 fois dans ma vie, quoi, on me parle toujours des arbres qui ont été plantés par mon père. Des arbres, des jacarandas, des flamboyants, qui ont été plantés par mon père dans les avenues de Tamatave.
Donc, vous adoriez ça, parce qu'on dit souvent aussi que les petits enfants, quand ils doivent déménager souvent, ils râlent parce qu'ils laissent les petits copains. Ça vous plaisait, vous, de partir sans arrêt?
Oh, moi, ça me plaisait. De toute façon, il n'était pas question que ce soit autrement. Et puis, j'ai jamais connu le fait d'avoir des copains. Ceux qui ont des copains depuis 10 ans, tout d'un coup, devoir changer, ça peut être difficile. Mais moi, j'ai jamais connu des copains plus de 2 ans. Pour moi, les copains, aussi bien les pièces d'habitation où on habitait, les rues, des endroits, des villes ou des villages où on habitait, on n'a jamais été habitué, quoi. On a toujours été, ça n'a jamais été addictif pour nous, ça a toujours été de passage, quoi. On a toujours.
Votre maman, ça lui plaisait, parce qu'on dit que les mamans aussi, c'est pas toujours simple.
Ça lui plaisait peut-être moins, mais elle avait pas le choix. Hein. Mon père, il était voyageur comme ça. Elle avait choisi. Elle aurait dû épouser un sédentaire si elle voulait autrement. Mais en plus, elle avait d'autres passions. C'est ce qui m'a appelé d'ailleurs, qui m'a amené d'ailleurs dans les Alpes. En Savoie, en Isère et en Suisse, elle était. C'est ça qui nous a amené à vivre à Thonon-les-Bains d'ailleurs. Elle était lyonnaise mais amoureuse des Alpes, quoi. Dauphiné, Savoie, Suisse, quoi. Donc on venait tout le temps. Quand on revenait en France, on voulait habiter là. Il y avait deux tendances qui s'opposaient. Il y avait la famille de mon père qui était marseillaise avec tout la Corse et marseillaise. Mon père était corse. Et puis. Il y avait la famille de ma mère, surtout, en fait, c'est pas dans la famille. Elle-même avait cette passion, elle aimait la montagne, donc j'ai fait du ski pour la première fois pas trop loin d'ici, à Morzine et au Gé, mes premières descentes, mes premières.
Je comprends bien, c'est quand même le show qui a gagné entre le papa et la maman.
Oui, c'était le show, c'était oui. Mais mon père, on avait failli aller à Tahiti une fois, et puis on s'était fait piquer la place. Mon père s'était fait piquer la place par un cousin, un collègue. Et puis. Non, c'est là qu'on est parti au Cameroun, mais c'était, je crois que mon père était voyageur et je pense que ça m'a vraiment inspiré. Et puis, je suis sûr que quand je suis parti en bateau, il était encore vivant. C'était juste, enfin non, il est
donc là,
décédé juste l'année avant.
Non,
il est décédé en 73, comme vous dites, 73. mais il était, je suis sûr qu'il aurait été content de voir mon parcours avec tous ces voyages, parce que je continue en quelque sorte son voyage à lui.
Et vos enfants, ils voyagent?
Ils voyagent aussi. Ma fille, elle est cuisinière actuellement en Australie. Mon fils est en année sabbatique, non, de césure, avant de finir ses études. Mon deuxième fils, il est actuellement en année de césure, il est au Costa Rica ou au Nicaragua, en voyage. Et le troisième, lui, il est plus sédentaire, il a monté une boîte d'applications à moitié chemin entre le jeu vidéo et la littérature. Donc, ils ont des beaux voyages tous les trois.
Ils vous rejoignent quelquefois?
De temps en temps, oui, de temps en temps, mais ils ont des vies très, très prenantes, très prises et très passionnantes. Et là, ma fille, chacun d'eux a fait de temps en temps une petite balade sur le bateau avec moi ou avec nous. Voilà.
Alors, c'est vrai que si on parle d'Antoine, on se dit, oh là là, vraiment, qu'est-ce que ça doit être cool, sa vie, parce qu'on vous imagine, en effet, tout le temps en train de bronzer au soleil. Puis quand on approche d'un peu plus près votre portrait, qu'on voit la trentaine de documentaires, les livres, les photos, on se dit, bah ouais, c'est la liberté, mais il faut bosser aussi, quand
c'est
même.
Vrai, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont du mal à imaginer qu'on puisse être cool.
Et bosser, quoi.
Sans être... Alors, ils disent, ah oui, alors c'est un stakhanoviste du travail, de la création et tout. Non, nous, on est passionnés.
Mais
on
vous bossez beaucoup, vous êtes d'accord?
Ah, on travaille beaucoup, mais c'est pas de le travail, c'est de la passion. C'est de la passion. On adore, je dis on, parce que depuis pas mal d'années maintenant, on fait tous nos tournages avec ma compagne française.
Qui est là-bas, dans la régie.
C'est elle qui a fait la plus grande partie des photos de ce livre. Donc, c'est un travail qu'on fait. On a une énorme équipe, puisque quand on a commencé il y a 22 ans, on était deux dans notre entreprise et maintenant on est deux. On est toujours deux. Voilà.
Pourquoi? Parce que dès qu'on fait rentrer d'autres gens, c'est plus compliqué.
Oui, parce qu'on adore faire ça. On adore faire les photos, la vidéo, tout ça. On adore le faire nous-mêmes. Le montage, je travaille avec un monteur pour avoir le côté vraiment précis, très professionnel. Mais le reste, on remplace peut-être une. On n'est pas des experts, mais on remplace par une passion inextinguible, vraiment. Donc on arrive à être cool, on est cool, mais en même temps passionné et fasciné par ce qu'on fait.
Alors c'est vrai que si on regarde attentivement le livre que j'ai sous les yeux chez Gallimard, donc 40 escales de navigation avec vous en couverture et puis effectivement le bleu qu'on aime et le blanc du sable aussi, il y a souvent des portraits de vous au gré de ces escales hein, qui sont classées par ordre alphabétique avec 2 à 3 pages par escale. Vous êtes toujours souriant. Vous disiez tout à l'heure, j'avais décidé après la provocation de miser sur la gentillesse. Mais des fois, on aimerait vous voir fâché, un peu en colère.
Non,
vous vous fâchez quelquefois,
d'abord,
Antoine
pas, non.
Jamais.
C'est rare.
J'ai regardé Francette là-bas derrière.
Non, je suis pas du genre fâché. Je grogne de temps en temps après les méfaits de je sais pas quoi, d'une bêtise.
Vous avez grogné.
Technique informatique ou autre. Non, je pas.
Contre des choses du fonctionnement du monde, vous êtes prononcé il y a pas très longtemps.
Oui, non, je me suis prononcé en particulier. Bon, il y a bientôt 50 ans. Je réclamais la pilule dans les Monoprix et j'ai été stupéfait. Je pense qu'il y avait une liberté au niveau de la sexualité en particulier. Et puis j'étais stupéfait de voir récemment des tendances prohibitionnistes arriver dans le domaine de du travail sexuel, de la prostitution. Alors j'ai pris la parole là-dedans parce que pour défendre les personnes qui exercent cette activité. Et
mais
puis,
là vous êtes vraiment mouillé, Antoine. Hein, c'était pas juste comme ça.
Non, j'en ai parlé. Je pense que c'était important. Bon, en Suisse, vous avez la chance d'être beaucoup plus pragmatique que nous, dans plusieurs domaines, quoi, dans le domaine aussi bien des drogues d'une certaine façon, puisque bon, vous n'avez pas été jusqu'à légaliser le cannabis, mais quand même vous traitez beaucoup mieux les gens qui souffrent des drogues qu'en France où c'est la répression totale, quoi. Hein.
Et puis en matière de prostitution, les prostituées sont battues pour avoir un statut
de reconnaissance du métier. Elles ont un statut. Bon, rien n'est parfait parce que
c'est toujours
une chose délicate, comme toutes les activités d'ailleurs. Et moi, je suis d'avis que c'est vraiment les aider, c'est pas la répression qui les aidera, quoi. Comme disait, moi, j'ai quelqu'un que je vénère par-dessus tout, c'est Simone de Beauvoir, qui était la plus grande des féministes, et qui disait, c'est pas avec des mesures répressives et négatives et hypocrites qu'on pourra améliorer la situation. Donc, j'avais pris la parole pour dire ça.
Mais de nombreuses fois, dans plusieurs articles, sur les plateaux de télé.
Ben, c'est vrai que lorsque vous parlez, vous exprimez dans un sujet comme celui-là, tous les plateaux de télé vous sont ouverts. Hein. C'est pas toujours facile, d'ailleurs, c'est pas toujours rose parce que vous balance des vannes dans la figure. Mais je pensais que c'était, en gros, je pense que cette incroyable gentillesse que les gens me témoignent, si je pouvais la mettre au service de ces personnes un instant, ben ça valait la peine de le faire, quoi. C'est uniquement pour ça que je l'ai fait, quoi. Et puis je le ferai éventuellement à l'occasion si quand actuellement en France ils se sont calmés dans ce domaine-là, mais ça peut revenir parce que c'est un combat de longue durée. Et c'est important. En tout cas, je voulais dire qu'en Suisse, c'est beaucoup plus pragmatique aussi. Je vois aussi, même au niveau de l'euthanasie, c'est plus, encore un sujet qui n'est pas tout simple, mais c'est quand même beaucoup mieux en Suisse qu'en France où ils vont un petit pas en avant, 3 pas en arrière, quoi.
À l'époque de la chanson, donc, les élucubrations l'arrestation d'Antoine, c'était en 66. Justement, vous aviez dit, vous n'aviez pas dit la pilule dans les Monoprix, vous aviez parlé de haschich.
En fait, la chanson, quand j'avais écrite au départ, j'avais des couplets, tout, et Johnny Hallyday en cachant les chemises à fleurs et tout ça, et j'avais fait un couplet qui était comme ça, le président, j'ai reçu une lettre de la présidence me demandant comment faire pour enrichir le pays. Et je disais, mettez le haschich en vente dans les Monoprix. Et puis, c'est la maison de disques qui avait pas du tout voulu, avec haschich, il se retrouvait en taule, le directeur de la maison de disques. Et je dis, bon, alors, la pilule. Parce qu'en fait, c'était beaucoup plus, je suis content que ça ait, d'avoir changé, parce que, en fait, ça me concerne beaucoup plus. Moi, j'ai jamais été un fumeur de haschich. J'ai fumé 4 pétards quand j'étais petit. C'est pas un truc que, si j'ai pris la parole aussi dans ce domaine-là, c'est pas parce que je suis un consommateur. Je m'en fiche totalement, hein. Mais je trouve ça idiot. C'est pas la répression. En France, on a les lois les plus répressives. Il y a 2 millions qui en consomment tous les jours. Alors donc, c'est un peu ridicule. Et donc, la pilule, ça me concernait beaucoup plus, parce que c'était une époque où, en France, je pense qu'en Suisse, c'était déjà mieux, j'imagine. Je saurais pas dire, en 66 par là.
Je ne suis pas certaine.
En 66, c'est quand, en France, même les préservatifs étaient interdits, quoi. C'était, il n'y avait rien. Heureusement, il y avait le planning familial, et j'avais été stupéfait de voir que le planning familial a donné des ordonnances pour commander des pilules, etc. Mais ça n'avait pas été inutile, parce que j'avais pris la parole. Petite parole, mais j'avais peut-être aidé à décomplexer, l'affaire dédramatiser. Et un an et demi après, eh bien, la loi française était changée, la contraception était devenue légale, quoi.
Alors, vous racontez volontiers que cette fameuse chanson, je suis désolée d'y revenir, mais on passera là-dessus après.
On fêtera l'année prochaine les 50 ans de cette chanson, alors je pense qu'on en parlera.
Bon, 50 ans de la chanson.
50 ans, un demi-siècle.
Ma mère m'a demandé de me faire couper les cheveux, je lui ai répondu dans 20 ans si tu veux. Vous les avez coupés un jour, vos cheveux, Antoine?
Non, je voulais vous féliciter parce que on a déjà pratiquement plus d'une demi-heure d'émission et juste vous arrivez à couper les cheveux juste maintenant. Alors qu'en général, 9 journalistes sur 10 me disent dès que ça commence, il ne s'est toujours pas fait couper les cheveux.
Mais votre maman vous a demandé ça forcément à cette époque-là.
Pas très longtemps, parce que quand mes cheveux ont poussé, je suis parti de la maison, parce que je suis parti étudier. Donc, sitôt que c'était curieux, parce que sitôt que j'ai quitté ma famille pour aller étudier, j'ai pratiquement plus l'occasion de retourner dans la famille. C'est pas que j'étais fâché avec eux, mais j'avais volé de mes propres ailes, quoi. C'était, quand je vois de nos jours que des jeunes, souvent jusqu'à 25, 29, 30 ans et plus, sont toujours dans leur famille, ça me surprend, parce que moi, à 18 ans, c'était sans aucune animosité envers ma mère, ni mon père, ni mes frères et sœurs, hein. C'était comme ça. Et c'était, donc, ma mère me disait de me faire couper les cheveux, bien sûr, d'aller, enfant, sitôt que ça dépassait d'un centimètre, il fallait le faire couper les cheveux, et puis je les ai coupés de temps en temps, ça m'est arrivé, au cours de navigation, tout d'un coup, une copine sur un autre bateau à l'ancre qui avait une bonne paire de ciseaux, j'ai dit allez tu coupes tout coupe tous les cheveux, des fois ça m'est arrivé, j'ai dû me raser la barbe 2 fois aussi en 40 ans.
Alors ça va être aussi une question qui vous a été posée 503 000 fois. La chemise à fleurs, elle est incontournable. Je me demandais comment vous alliez arriver aujourd'hui.
Eh ben non, je vous ai pas déçu. Alors je vous ai pas déçu.
Je suis pas déçu. Elle est très belle.
On dirait un feu vert sur l'avenue. Et oui, j'étais.
C'est un peu votre marque de fabrique aussi, non?
L'histoire de la chemise à fleurs a commencé pas loin d'ici, enfin à Grenoble. À Grenoble, où j'étais venu passer quelques jours de vacances et j'avais vu un corsage à fleurs, parce que les chemises à fleurs n'existaient pas, dans une nouvelle galerie, un truc comme ça. Et j'avais acheté, voilà. Donc ma première chemise à fleurs se boutonnait à gauche, contrairement à droite. Et je suis venu au studio, j'avais cette chemise, et puis j'avais mis un couplet dans la chanson. J'avais écrit des couplets, tout d'un coup j'ajoute ce couplet sur les chemises à fleurs, voilà.
On les trouve toujours facilement, vous en trouvez toujours de toutes sortes.
Et ensuite j'avais un peu abandonné pendant des années, j'ai plus les chemises à fleurs parce que c'était un petit peu trop lié à la provocation, c'était un peu trop caricatural. Quand je suis parti en bateau, j'étais en bleu marine, côté marin, quoi, vieux loup de mer et tout, ou jeune loup de mer à l'époque. Et puis je suis arrivé à Tahiti. Et à Tahiti, alors là, je suis retombé dans le bain totalement, quoi, parce que là-bas, la chemise tahitienne ou hawaïenne, elle est partout. Donc, depuis, j'ai pas arrêté, quoi.
Et
celle-là vient de Tahiti, elles sont.
Ah ouais, c'est belle. Alors, on va essayer de la décrire. C'est dans les jaunes, les verts, les bleus et blancs, avec des grands ramages. Elle est effectivement somptueuse, à tel point que moi, j'ai honte parce que j'avais mis exprès une chemise à fleurs, mais elle vous plaît pas du tout, la mienne.
Ah non, non, elle est jolie, elle est jolie. Elle a été dessinée par des iguanes.
C'est non, Antoine
très joli.
Qui est avec nous jusqu'à 16h et on va continuer à voyager avec lui. Il y a plusieurs événements. Il y a ce livre chez Gallimard, 40 ans de navigation. Et puis il y a toute cette série de conférences à l'enseigne de connaissances du monde. Elles sont toutes sur notre site, hein, les dates rts.ch/détour. Je vais quand même vous en dire deux ou trois les prochaines. Ce soir c'est Tramelan.
Donc
il faut que je vous lâche pas trop tard. Après, c'est Neuchâtel. Ça, Neuchâtel, c'est le 8. Et Morges, le 9. Voilà, j'en dis 3 et j'en dirai d'autres après. Antoine, jusqu'à 16h.
Ma certe nostre sere hanno un colore che non sapresti dire. Sospese fra l'azzurro e l'amaranto. E vibrano di un ritmo lento, 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 ma noi che le stiamo ad aspettare, noi le sappiamo prigioniere, come le onde del mare, come le stelle del mare, come le onde del mare, come le stelle del mare, laila, la la. Certe nostre sere e sanno di partenza, di tramonto e di sorvolare lento, 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 ma noi che le sappiamo prigioniere non le possiamo liberare come le onde dal mare, come le stelle dal mare, come le onde dal mare, come le stelle dal mare.
C'est Gian Maria Testa. Et on avait envie de vous passer une chanson italienne parce que je l'ignorais, mais en préparant notre rencontre, Antoine, j'ai réalisé que vous aviez eu une période italienne de chansons en Italie et de célébrités en Italie.
Eh oui, dans les nombreuses vies que j'ai eu la chance de vivre, j'ai eu une vie italienne toujours et qui a toujours ses prolongements parce que en Italie, il y a une chanson, c'est pas du tout des élucubrations, c'est pas ma mère m'a dit Antoine, c'est une chanson tout à fait différente et inconnue en France, mais qui est rentrée dans l'inconscient collectif des Italiens, aussi profondément, c'est les pietre. Tu sei buono e ti tirano le pietre. Alors, ceux qui sont italiens, c'est amusant parce que les Français connaissent pas du tout, mais alors les Italiens, même de tous âges, ils s'en souviennent, quoi.
Et ça dit quoi, exactement?
Ça veut dire, c'est un peu ma philosophie aussi, c'est que tu es beau, que tu sois laid, On te jettera des pierres, de toute façon. Tu peux être, que tu sois riche, que tu sois beau, que tu sois pauvre, que tu sois, de toute façon, on jettera des pierres, ça sera toujours comme ça. Voilà.
Et c'est... Mais attendez, c'est pessimiste.
Oui, hein, c'est pessimiste, mais en même temps, comme c'est une chanson joyeuse comme rythme, ça veut dire, un peu entre, comme on dit en anglais, tongue in cheek, un peu en plaisantant, quoi, voilà, c'est, ça sera toujours comme ça, alors, de toute façon, faut faire avec.
Vous me la chantez, hein, juste trois secondes.
C'est buono e ti tirano le pietre, sei cattivo e ti tirano le pietre, qualunque cosa fai, dovunque te ne vai, tu sempre pietre in faccia prenderai. Voilà.
On vous a jeté souvent des pierres, Antoine?
Au début, quand j'ai commencé à chanter, il y a eu quelques pierres, il y a des canettes, des tomates, c'était la violence, c'était pas...
Mais aujourd'hui. Oh, aujourd'hui, j'ai l'impression que tout le monde vous aime, que vous êtes soit le grand frère, soit le tonton.
Il y a juste des fois des gens, en particulier dans le show business, des gens dans les médias qui disent ouais Antoine.
Ils disent quoi, oui ben, Antoine. Quoi.
En fait, il y a des gens qui sont morts de jalousie de pas être eux sous les cocotiers. Voilà. Alors ils se disent pourquoi c'est lui et pas nous. Alors cela, mais sinon la plupart du temps les gens.
J'ai les lunettes aussi, je pense qu'on gens... doit vous faire.
Oui, on fait mon blague
pour parce les que, lunettes. Comme, je le redis, ouais. Hein, je vois le jeune qui est en face de nous en régie qui sait peut-être pas les lunettes. Atoll.
Voilà, c'est ça, donc ça, c'est les gens. Mais même, y compris ça, ça a duré 12 ans avec les lunettes, cette célèbre chaîne d'opticiens. Eh ben, ça a toujours été pris gentiment, comme ça. Il y a juste quelque part, je vous dis, c'est rare. C'est très très rare que des gens jaloux viennent me dire, vous avez que ça et tout. Et puis alors, ce qu'il y a de marrant, c'est que, à un moment, je commençais donc à être, pendant quelques années, j'ai été l'icône de cette coopérative d'opticiens. Et puis on disait, oh ben Antoine, il a besoin. Alors certains disaient, ouais, alors c'est quoi,
il revient chercher des sous pour pouvoir continuer à voyager.
Il n'est pas vedette, c'est ringard de faire de la pub. Et là-dessus, il y a Johnny qui fait, alors plus personne n'a rien dit. Là. Plus personne s'est moqué.
Il y a eu Optique 2000.
Et puis Adriana Carambeu, et puis Matt Pokora. Donc je suis ravi de...
Et puis au fond, c'est vrai que honnêtement c'était un petit plus pour pouvoir mieux voyager, non?
Voilà, ben moi ça m'a permis, entre autres, de payer les études de mes enfants. Ça m'a permis de leur payer les meilleures études. Ma fille, je parlais de ma fille, j'ai pu lui offrir le meilleur institut Bocuse à Lyon. Voilà, donc ça a été extraordinaire, tout à fait formidable. J'étais ravi, ça m'a permis de voyager beaucoup, de partir en voyage
8 mois par an.
Partir en voyage avec Adriana Carambeu en Afrique du Sud, c'est quand même pas mal.
Juste pour revenir à la chanson, parce qu'on a passé une chanson de vous tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a cette période de chanson, vous partez, et puis ce disque-là, qui est vraiment bien en plus, Demain Loin, on l'a peu entendu, j'ai l'impression.
Ben, ce disque-là, c'est une belle aventure et en même temps une triste aventure, parce que moi j'ai adoré faire ce disque, c'est Stanislas, le chanteur, le musicien, grand musicien surtout, qui a eu l'idée de se faire ce disque, qui a tout dirigé, tout piloté, l'écriture des chansons par un groupe de jeunes auteurs-compositeurs, etc. Et puis l'enregistrement. Mais là-dessus, ensuite, c'est tombé dans les mains des grosses multinationales, quoi. Parce que pour faire un disque de chansons, on est obligé de passer par une grosse multinationale. Alors, autant, moi, pour les films que je réalise, j'ai un contact absolument parfait et privilégié depuis plus de 20 ans avec une multinationale importante qui est Warner Home Video, qui publie nos films, qu'ils aient ou non du succès d'ailleurs, certains ont eu des très gros succès, d'autres beaucoup moins, et quand même une fidélité merveilleuse, quoi. Autant dans la chanson, ça n'existe plus apparemment, quoi. Dans la chanson, c'est ou tout ou rien, quoi. Alors quand c'est devenu une trop grosse machine, que des gens ont dû mettre trop d'argent, et puis si ça rapportait pas tout de suite, ils faisaient plus rien. Ça a été beaucoup moins gratifiant pour moi que vraiment le livre. L'éditeur avec Gallimard, ça fait 25 ans qu'on travaille avec la même personne, la même directrice éditoriale, et puis que...
Mais en même temps, c'est un peu triste parce que quand on a passé le disque tout à l'heure, oui. On a monté le micro à un moment donné, vous avez chanté tout du long, on sent que c'est encore un plaisir fou.
Ah ben, j'adore ça, j'ai adoré en plus beaucoup des chansons de ce disque, mais c'est vrai que j'ai aucune envie de reprendre la route en tournée avec la lourdeur que je vous décrivais, quoi, parce que c'est pareil dans les spectacles maintenant. Une tournée de chansons, c'est des semi-remorques, c'est des gens qui ont des métiers qui ne savaient même pas que ça existait.
Comme
des,
quoi
ben, comment s'appelle Cab non, j'ai oublié le nom. J'ai toujours un nom. Backliner.
Backliner, merci.
Backliner, voilà. Backliner. Je ne savais pas que ça existait, un backliner, moi.
Et c'est quoi un backliner?
Ben, j'ai pas encore compris.
J'en ai eu
quelques temps, oui. Mais c'est formidable, ça a tellement changé par rapport à mon époque. Mais c'est pas la dimension qui me plaît, quoi.
Ouais.
Nous, on réalise nos films à deux, on fait notre montage en grande partie sur le bateau ou le reste à la maison. La technologie maintenant est géniale. Je vois, il y a une équipe de télévision qui est là pour nous filmer pendant qu'on parle là. Ils ont des caméras énormes. Nous maintenant, on a des toutes petites caméras. On fait des films comme on vit, quoi. On filme comme on respire. Et c'est ça qui est important.
Est-ce que c'est vraiment... parce que le mot liberté est arrivé assez vite dans votre histoire. Oh, larguer les amarres, liberté.
Dès le début, oui. Je crois que la première chanson, ça parlait de liberté déjà. Alors.
Vous êtes vraiment un homme libre aujourd'hui, Antoine ?
On a toujours des obligations. On a les limites que vous donne votre corps, les limites que donnent les règlements, les saisons, la technologie. On a des limitations. Aussi bien le temps n'est pas toujours forcément ce qu'on voudrait quand on est en mer. Les gens sont pas toujours forcément, n'ont pas forcément la même avis que vous, etc. La technologie, des fois, vous fait des surprises. Mais en tenant compte de tout ça, je crois que j'essaie d'être aussi libre que possible, le plus libre possible, et puis c'est important, quoi.
Je pense que c'est quand même pas tous les jours facile d'essayer d'être libre.
Non, mais il faut avoir un minimum de... C'est ce que mon ami, le défunt et très grand navigateur français, Bernard Moitessier, disait. C'est important, c'est ce qu'il s'appelle la vitesse de libération.
C'est quoi ?
La vitesse de libération, c'est aussi bien la petite somme d'argent qui vous permet de dire « je me barre », que juste l'esprit de se libérer des soucis, des contingences et tout. Et c'est ce que j'essaie de faire à tout moment, quoi.
Vous l'avez bien sûr rencontré, vous le citez aussi dans le livre des 40 escales.
Oui.
Et vous dites, je crois, je ne l'ai plus sous le nez, mais...
Il est là-bas derrière, je crois, non.
Juste, ça a été, les 3 jours de rencontre, ça a été les journées les plus intenses de ma vie,
c'était,
il semble.
Oui, c'était une autre des destinations, les îles Cook, là, et j'y suis retourné plusieurs fois avec l'un ou l'autre de mes fils, d'ailleurs, voir nous arrêtant pour voir les oiseaux dans une petite île sur la route en Polynésie française, à Montpellier. Et puis, aux îles Cook, des années avant, j'avais retrouvé Bernard Moitessier. Et Bernard Moitessier, c'était un navigateur solitaire français qui avait défrayé la chronique quand il avait fait un tour du monde. Et puis, qu'il avait failli gagner une course. Et au lieu de rentrer pour recevoir ses lauriers, il est reparti s'installer à Tahiti, sans repasser par la France. Et il m'a toujours fait rêver. Puis, je tombe sur lui dans une de ces îles désertes. Au loin, c'était super. C'était vraiment 3 jours où il vivait en autarcie. En 3 jours, il nous avait dit, un gars qui était là sur un autre bateau dit, on va descendre faire un pique-nique, on prépare à manger et tout. Bernard dit, pas la peine, j'organise tout. Et il débarque, et aussitôt on avait langoustes, poissons, noix de coco. C'était un peu du rêve, quoi.
Qu'est-ce qui vous a frappé encore chez lui ?
Chez Bernard ?
Ouais.
Oh, c'était un garçon très libre. Alors lui, il voulait surtout pas se laisser embêter par les habitudes, quoi. Cherche le mot, j'ai oublié un mot qui me manque. Les convenances. Voilà, les convenances. Non, il vivait librement dans tous les domaines. C'était un garçon assez passionnant, assez. Pas toujours facile à rencontrer, il avait son caractère aussi, mais il était, je crois qu'il a beaucoup, beaucoup inspiré des navigateurs comme moi. Beaucoup, beaucoup de navigateurs se sentent intimement attachés lorsqu'ils naviguent.
Alors, je vais poser une question de jalouse. Est-ce que d'avoir la liberté de faire ce qu'on veut, de voyager aux quatre coins des globes et des océans, est-ce qu'il n'y a pas aussi là une routine ?
Il y a une routine en toute chose, mais là, c'est tellement varié que je crois pas qu'il y ait beaucoup de routines, quoi. C'est-à-dire que chaque année est différente des autres. Bon, c'est vrai qu'il y a des routines, par exemple, on reprend régulièrement les avions qui vont vers Tahiti, donc on sait qu'on fait la même escale.
Oh, parce que c'est dur, cette routine.
Même escale à Los Angeles, etc. Ouais. Il y a des routines techniques normales comme ça, mais non, il y a un changement. Chaque fois, c'est un changement. Chaque journée est différente, quoi. Chaque journée est différente, je crois que c'est peut-être un des plus grands privilèges.
Alors pourquoi la Polynésie ? Parce que là, quand on parcourt, donc on va à Sydney, on va aussi en Corse, on va en Italie, dans ce livre des escales, on traverse aussi votre histoire, hein, puisque c'est pas chronologique, c'est pas ordre alphabétique. Pourquoi est-ce que finalement c'est la Polynésie qui reste au fond votre troisième port d'attache, peut-être ?
Ben, c'est-à-dire que j'ai fait plus de 2 fois le tour du monde sur des voiliers, 2 fois et demi parce que je suis revenu reparti et tout, et puis si je compte les zigzags, X fois le tour du monde, mais Disons sur les trois océans, celui qui est le mieux fait, suivant mon cœur, suivant notre cœur aussi, un Français et à moi en tout cas, c'est le Pacifique. Parce qu'il est immense, plutôt pacifique si on choisit les bonnes saisons et les bonnes régions. Et puis il a une très grande variété d'îles. Quoi. L'Atlantique, comme l'océan Indien, ont peu d'îles. Quoi. L'Atlantique, il y a les Antilles qui sont intéressantes, mais un peu trop développées, un peu trop fréquentées par les touristes, vu la proximité de l'Europe et surtout de l'Amérique du Nord. Le Pacifique, c'est immense. C'est immense, il y a des quantités d'archipels. On est vraiment très très différent, quoi. La Nouvelle-Zélande, là où j'ai amené le bateau récemment, en Australie, c'est un pays très différent de la Nouvelle-Zélande, des Fidji, des Tonga, de la Polynésie française. Donc c'est notre océan, quoi. Et puis là-dessus, il y a la Polynésie française qui a l'archipel le plus étendu, plus varié aussi, parce que ça, des îles montagneuses, des régions très peuplées, enfin bien habitées, et puis des régions
désertes. Tout ça, c'est des descriptions géographiques. Je voudrais qu'on sache pourquoi, dans votre cœur.
Ben, il y a beaucoup de considérations purement techniques, comme géographiques, comme des règlements aussi en Polynésie. En Polynésie, on est beaucoup plus libre, disons, qu'au Fidji ou au Tonga ou au Samoa, quoi. Donc, il y a des considérations pratiques de tous les jours, qui vous créent un environnement où vous pouvez apprécier ou non la beauté du lieu, quoi. Par exemple, les Tonga, il y a des lieux qui sont aussi beaux, aussi fascinants, mais peut-être pas avec des abris où on se sent aussi en sécurité, quoi. Donc, la Polynésie, j'additionne tout ça. J'additionne la beauté, que je disais tout à l'heure, avec les 50 nuances de bleu, et puis la gentillesse des gens, la végétation, tout ça, ce qui fait que c'est celle qui nous plaît le plus. Voilà. C'est l'endroit où on a le plus envie de retourner, tout en ayant envie, comme on le fait régulièrement, d'aller voir d'autres pays pour voir à quoi ça ressemble.
C'est ce que j'avais envie de dire. Vous êtes un wapiti des Tuamotu, c'est ça?
Le wapiti. Non, c'est pas un wapiti. Je sais pas moi le wapiti. C'est que, je vais vous expliquer ce que c'est. Le wapiti, c'est pas l'animal du Grand Nord, qui s'appelle WAPITI. C'est un, je vois que vous avez lu le livre, on sait pas si c'est un personnage, c'est un animal, disons, qui vit dans un roman de Boris Vian, qui s'appelle, si je me trompe pas, L'Herbe Rouge. Et il y a un personnage du livre qui rêve de trouver un wapiti. C'est son rêve ultime de trouver un wapiti. Et on ne sait pas ce que c'est, personne ne saura jamais ce que c'est, et un jour il le trouve. Il y voit un wapiti qui sort de son terrier, qui lui dit « Non, pitié monseigneur, je rendrai les diamants ». Je ne sais pas pourquoi il dit ça, mais c'est bien ce qu'il dit. Et il tombe, et Boris Vian pose la question. Quand on a atteint, quand on a devant soi la chose dont on rêve plus que tout au monde, quand on l'a trouvé, est-ce que c'est la fin de la vie, quoi? Est-ce que tout d'un coup on ne peut plus rien faire, il ne faut plus rien faire? Alors c'est une grande question. Voilà, nous on a trouvé notre wapiti au Tuamotu.
Alors c'est quoi la réponse, la vôtre?
Eh ben la nôtre, c'est d'y revenir aussi souvent que possible, mais quand même d'aller voir ailleurs d'autres gens, d'autres paysages, d'autres traditions, d'autres natures, d'autres animaux.
Antoine, où est-ce que vous m'emmenez si je vous demande de choisir une destination? Je sais que c'est impossible, mais vous allez faire un effort.
Ça c'est la question impossible, ouais. Parce que je suis pas.
Mais
pour
vous allez faire un effort. Nouvelle-Angleterre, allez.
Of. Ah ben disons Nouvelle-Angleterre. Alors Nouvelle-Angleterre, c'est ça fait partie le film que nous présentons, c'est l'océan Indien.
Donc ce soir et plusieurs soirs ensuite.
Voilà.
Suisse, hein,
ouais. Mais notre film le plus récemment réalisé, qui est actuellement en magasin ou bien sur notre site internet, qui est antoine.tv, hein, comme la télévision antoine.tv, et qu'on peut télécharger là. On peut commander sur place, c'est sur le Canada. Le Canada, donc on a fait des grands voyages en Amérique du Nord plusieurs fois pour un film sur les parcs américains sorti il y a 2 ans, et puis un film sur le Canada. Et puis comme c'était, j'ai toujours aimé les côtes de la Nouvelle-Angleterre, j'ai ajouté un petit peu bizarrement la Nouvelle-Angleterre au film sur le Canada. Voilà, parce que c'est une région que j'aime beaucoup avec ses phares.
Alors c'est donc ça, c'est les phares.
Voilà,
hein,
donc on
qui
est allé voir.
Dans le livre,
voilà,
Dieu.
C'est
ouais.
Ça. On est allé faire un tour. Il y a deux composantes essentielles, les phares et les homards. Voilà. Et
parce qu'on mange beaucoup de homards.
Oui, parce qu'il y a des homards.
En Nouvelle-Angleterre.
Moi, j'avais longé toute cette côte, j'avais navigué avec mon deuxième bateau, voyage. J'avais navigué, j'avais découvert le brouillard et la chance d'avoir. Je m'étais acheté un radar pour la première fois. Donc, je naviguais là-dedans entre les casillas à homards et les récifs et les rochers. Et c'était une région que j'avais trouvée merveilleuse. Donc, on y retournait pour filmer, spécialement ces phares qui sont spectaculaires, qui ont tous une histoire. Il y en a un qu'on voit dans le film Forrest Gump. quand Forrest Gump perd un peu la tête et se met à courir d'est en est et d'est en ouest et d'ouest en est à travers les États-Unis, c'est là qu'il fait demi-tour au bout sur le phare un des phares de, je me rappelle plus la pointe le nom, et puis chaque phare a son histoire comme ça, c'est un petit peu ça qu'on raconte dans les quelques pages consacrées à cette région.
C'est frustrant de n'avoir que 3 pages par pays.
Ah bah oui, c'était frustrant, mais ça correspond. Depuis le temps, j'ai jamais réellement réalisé un livre entier, un album entier consacré à une région donnée. Quoi. Ça doit être assez significatif. J'ai jamais eu envie de faire un livre de 300 pages.
Pourquoi,
sur la Polynésie. Ça viendra peut-être. Ben je sais pas, parce que c'est peut-être encore cette passion de liberté, quoi. Cette passion, j'aurais l'impression d'être enfermé dans les pages 300, 400 pages consacrées à une région donnée, je me sentirais à l'étroit, quoi.
C'est vrai.
Ah oui? Oui, j'ai toujours, c'est vrai, j'y repense. On a pratiquement toujours fait des livres qui rassemblent plusieurs endroits, quoi. Et c'est pareil. J'ai jamais été non plus, capable de, ou volontaire pour faire un roman, c'est-à-dire créer un monde qui soit limité aux gens qui sont les personnages du roman, les lieux dans lesquels ils vivent, même s'ils sont assez voyageurs. Et j'ai toujours l'impression que ça m'enfermerait, quoi. Donc j'ai toujours eu envie de la liberté de, elle est bien dans des pages d'un livre comme ça, dans tous nos livres, parce qu'elle est, on sait que le lendemain, on sera peut-être dans un climat totalement différent, une région totalement différente, et c'est encore plus enrichissant, encore plus heureux.
Antoine, est-ce que en 40 ans de navigation, vous avez 70 ans cette année ?
28 ans.
Oui, c'est ce qui me semblait. Je disais 70, mais
oui,
je me suis rendu compte que
c'était une erreur de calcul.
Vous avez donc 28 ans aujourd'hui.
J'ai 70 ans.
Est-ce que le monde s'est rapetissé depuis que vous naviguez ?
Non, il s'est pas rapetissé. Non. Le monde, je crois pas, non. Il y a tous des tas de choses passionnantes. Moi, je suis pas opposé au progrès.
Il y a de plus en plus de monde partout.
Écoutez, les endroits là où nous trouvons de Wapiti, il n'y a pas beaucoup de monde. Et puis dans d'autres... Non, sur l'océan, il n'y a personne. Moi, je viens de faire une traversée 3600 miles en solitaire, et pas en course, contrairement... La même distance que la route du Rhum, mais pas en course. Et j'ai rencontré personne. Si, j'ai fait escale dans 5 ou 6 îles au passage, et là, j'ai retrouvé des copains où j'en ai découvert d'autres. Mais en mer, personne. J'ai rencontré personne. Des oiseaux, des baleines, des dauphins... Et personne d'autre.
Mais voilà. Sur Terre, dans les ports, il y a de plus en plus de
ouais,
monde.
Ouais, mais on va pas dans les ports. Comme disait, c'est Goldman, on s'arrêtera jamais dans les ports. On évite les ports en général. On y va pour réparer le bateau, etc. On est plutôt dans les baies tranquilles, les îles, tous les ports très fréquentés, les marinas et tout, on évite en général. On y va uniquement pour des raisons techniques.
Pour caréner le bateau.
Ou bien pour faire le plein d'eau, avoir l'eau, l'électricité quelques jours. Mais en général, on se débrouille, quoi.
On est plutôt indépendant. Donc on arrive toujours à être seul sur Terre aujourd'hui.
Sur Terre, sur mer, oui. Oui, bien sûr.
Bon. Ça me plaît bien, cette conclusion. Bon. On écoute une dernière chanson.
Sur l'océan. J'ouvrais mes ailes et dévalais le vent. Quand le soleil déshabillait mes voiles, je louvoyais vers la première étoile. Tous les jours, je rêvais de l'au-delà, l'amour. Je m'en allais comme un oiseau sauvage, sans compagnie sextant, j'allais vers l'océan, tourbillonnant, un frère, un goéland, s'est approché de mon sillage. M'a dit ces mots. Oh, toi qui pars pour un si long voyage, sans savoir aujourd'hui où tu tu seras demain. Je voudrais bien te montrer mes chemins, moi qui connais tant de rivages. On pourra s'envoler tous les deux sur ton voilier bleu et naviguer sur un million d'étoiles, tournoyer dans l'azur pour suivre l'horizon.
Elle s'appelle Bia. Elle est brésilienne, François Piton, qui est en régie. Elle plaît cette chanson à Antoine. Hein.
Elle est bien choisie, dis donc, vous êtes très nautique. Hein,
merci
très nautique,
François Piton.
Une des escales du livre, d'ailleurs, c'est Bahia, Salvador, et c'est, on est bercé par cette musique-là. Et puis,
qu'est-ce qui vous a frappé à Bahia?
Bahia, les acarajés.
Allez-y, racontez-moi les acarajés.
Le monde n'est plus ce qu'il est, il paraît qu'on ne trouve plus d'acarajés, de Bahia vendant des acarajés dans les rues de
Salvador. Mais on ne sait pas ce que
Salvador.
C'est, vous allez nous le dire.
L'acarajé, c'est un beignet fait à farine, à partir de, je crois, de farine de haricots noirs, il me semble. Et puis surtout, on met dedans des piments, des crevettes, mais surtout des piments très très forts. Et alors ça, on prend feu. La laine.
Mais on peut choisir, hein, on peut dire.
Oui,
pas trop
surtout,
de
pas trop de piment. Donc, si,
mais
si
vous dites du
mais
piment.
Si on demande les piments, alors là, il y a des crevettes séchées dedans. C'est très 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 bon. C'est pour moi, c'est l'image totale de chaque. Un jour, j'avais fait un livre sur les recettes de cuisine en voyage, comme ça. Et là, c'est l'image exacte de Bahia, de Salvador da Bahia. Mais il y a également plein de belles choses. Il y a quoi? Il y a 360 églises dans la ville. Il y a des tas de choses belles à voir. Et puis le carnaval, évidemment.
Auquel vous avez participé. Ce que vous racontez dans ce livre chez Gallimard. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2015, Antoine?
Eh bien, 2015, bien, non, tout
que
va bien.
Continue comme
tout
ça.
Va bien. Que ça continue comme ça, voilà. Disons, si vous voulez me souhaiter pour la vie, je vous dirais encore 30 ou 40 années comme ça, voilà.
Oh, bah, plus que ça, 7, voilà. 8, 9, 10, voilà. Ouais, en tout cas 30
voilà.
ans.
Encore 30 ou 40 années comme ça, et puis voilà, et puis après on pensera à lever le pied, aller plus doucement, voilà.
C'est Antoine qui est en tournée pour les conférences Connaissance du Monde, et vous pouvez trouver toutes les références et les dates sur notre site. C'est tout pour aujourd'hui. Grand merci Antoine, il est 16h sur la première.
Au revoir, bonne année, merci.